Merci à vous Laetitia Gaillet de nous avoir fait entendre Olivier Besancenot en train de chanter. Renaud, le chanteur Renaud, vous a délaissé François Fillon au profit d'Emmanuel Macron, vous êtes déçu?
Pas de commentaire.
Ah bah c'est voilà. Vous étiez réjoui, je me souviens quand même, pour la première fois, pour le premier mouvement, pour le deuxième, vous n'avez pas de commentaire. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on fait à présent? Je dis simplement un mot de Frédéric Becbédé qui viendra faire sa chronique à 9h05 et qui vous proposera, comment appelle-t-il cela, un spa auditif spécialement destiné à vous mettre en bonne situation, en relaxation. Voilà, exactement. François Fillon, il est 8h38 sur Inter.
France Inter, 7-9 spécial. Matinale grand format.
Matinale grand format avec les appels des auditeurs de France Inter. Mais alors sur mon tableau, sur mon écran, rien ne s'affiche. Donc je ne sais pas. Merci à la régie de résoudre le problème. Norbert de Paris. Bonjour Norbert.
Oui, bonjour messieurs. En préambule à ma question, j'ai de plus en plus l'impression que cette campagne devient le carnaval des Pinocchio. Bon, alors là, je me demande comment prendre au sérieux un éventuel gestionnaire du pays dont les revenus ne lui permettent pas de payer ses impôts sans un emprunt familial. C'est une dette qui ressemble à la gestion imprévoyante de père de famille. Et c'est une impression qui me laisse très réservé.
Merci pour cet appel, ce point de vue. François Fillon.
C'est bien tout le problème, c'est que ce sont mes affaires privées, ça ne regarde personne. Je veux dire, c'est bien tout ce que je reproche dans cette campagne, c'est cet étalage qui est fait de la gestion privée des uns et des autres. Monsieur ne connaît pas ma situation et puis je n'ai pas à m'expliquer sur la manière dont je gère mes finances personnelles.
Vous comprenez que la question puisse se poser pour des citoyens? Vous pensez que c'est malveillant de...
Mais non, parce que ce sont des, on prend un petit morceau, on prend une information et...
Qui est tiré de votre déclaration de patrimoine à la Haute Autorité.
Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je vienne à France Inter et que j'explique la totalité de ma vie privée, la façon dont les dépenses qui sont les miennes, le fait que j'attendais le versement des droits d'auteur de mon livre pour payer mes impôts, etc. Voilà. Enfin, est-ce que je dois m'expliquer sur ces questions-là? Je vous réponds non. Je n'ai pas à m'expliquer sur ces questions.
On est allé trop loin en matière de transparence,
oui,
parce que
ou alors il faudrait le faire pour tous les candidats. Il faut quand même se rendre compte que il y a
tous
en
les
gros.
Les candidats sont tenus de déclarer leur patrimoine comme
oui,
vous
mais
l'avez
tous
fait.
Les candidats n'ont pas fait l'objet de 8 perquisitions et tous les candidats n'ont pas une vingtaine d'enquêteurs sur le dos depuis 2 mois et demi. Voilà. Et donc, je considère qu'il y a eu dans cette élection présidentielle des actes qui ont été commis, qui mettent en cause le pouvoir et qui créent une forme d'injustice, de différence entre les candidats.
Quand vous disiez tout à l'heure, j'ai les noms, les personnes, dates, les heures, etc. Ce sont des personnes liées au pouvoir.
Hein. Absolument.
Liées à la présidence de la République, à François Hollande, directement.
Oui. Absolument.
Bon, vous nous le direz un jour.
Je vais enclencher les procédures qui c'est pas à moi, je suis pas un justicier, je respecte la justice de mon pays, donc j'enclencherai les procédures nécessaires pour que la vérité soit faite sur cette affaire parce que elle est extrêmement grave. Je veux dire on est devant des pratiques qui sont des pratiques qui ne sont pas démocratiques.
La justice n'est pas impartiale.
Non, c'est pas la justice qui est en cause, ce sont ceux qui la manipulent.
Comment on peut manipuler la justice?
En déclenchant des procédures, en communiquant des documents qui n'ont pas à être communiqués à la presse pour qu'elle puisse ensuite déclencher les procédures. Voilà, c'est une opération
conduite. Vous dites que les documents qui sont au départ de cette affaire, c'est-à-dire les premiers papiers du canard enchaîné...
Bien sûr, je sais d'où ils viennent.
Ce ne sont pas des journalistes qui ont cherché et qui ont trouvé.
Ils viennent d'un service de l'État.
Voilà. Et ce ne sont pas des journalistes qui ont cherché et qui ont trouvé?
Non, on leur a apporté.
Sylvain nous appelle. Plus, quand même. Ah bah oui, mais là on va pas voilà comme non. Disait François Fillon, on va pas y passer toute l'émission non plus. Bon voilà, je crois qu'on a.
Merci Monsieur Sylvain, Cohen.
Alors, on a passé un certain nombre de questions. Sylvain nous appelle de Metz. Bonjour Sylvain.
Bonjour. Je vais revenir à un sujet très terre à terre, littéralement un sujet que la primaire la droite n'a pas abordé du tout et que cette campagne aborde assez peu, c'est l'environnement. Donc ma question est simple parce qu'il en va de l'avenir de nos enfants. Alors on a bien compris ce que Monsieur Fillon était capable de faire pour l'avenir de ses propres enfants. Moi je voudrais savoir si
voilà déjà une question qui est bien orientée.
Je voudrais savoir s'il s'intéresse aussi à l'avenir de tous les autres, notamment les enfants des gens honnêtes. Et donc une fois président de la République, comment la France apportera, une fois François Fillon président de la République, comment la France apportera sa contribution à la transition énergétique énergétique.
Moi, je réponds pas aux gens qui m'insultent à la télé, à la radio. Ils viennent parler de gens honnêtes. Je ne réponds pas à cette question.
Bon, alors sur le sujet de la transition
énergétique, sur la transition, je veux bien répondre.
Et l'actualité qui est celle de la fermeture éventuelle de Fessenheim aujourd'hui, puisqu'il y a un conseil d'administration d'EDF.
D'abord, moi, ce que je souhaite, c'est que la France respecte les engagements qu'elle a pris en matière de rejet de gaz carbonique, de rejet de gaz à effet de serre. On a pris des engagements dans le cadre de la COP21 qui doivent être tenus. Pour les tenir, la première décision à prendre, c'est de ne pas fermer Fessenheim. Parce que en descendant à 50% la production d'énergie nucléaire dans un délai aussi court que celui que la loi de transition énergétique a prévu, on n'arrivera pas à respecter les objectifs de la COP21. Donc il faut conserver le nucléaire tant qu'il est capable de produire de l'électricité dans des conditions de sécurité qui sont bonnes, et il faut en même temps développer à fond les énergies renouvelables. Et moi, ce que je propose dans mon projet, c'est d'arrêter complètement toutes les sources de production d'électricité qui font appel aux énergies fossiles, de façon à ce qu'on aille vers une énergie, vers une production d'énergie complètement décarbonée.
Jean-Yvon nous appelle des Côtes d'Armor, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Fillon et bonjour à toute l'équipe France Inter. Alors Monsieur Fillon, je vous appelle parce que j'aurais souhaité vous interpeller par rapport à l'agriculture française. J'espère qu'un jour on n'en parlera pas simplement comme un bon souvenir. Alors je vous dis ça tout simplement parce que donc je suis producteur de lait et la filière aujourd'hui est bien malmenée. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous pourriez mettre en place justement pour protéger le producteur face à la grande distribution. Moi aujourd'hui j'ai un coût de production au litre de lait qui est de 35 centimes et je suis rémunéré 30 centimes. Et je voulais aussi savoir qu'est-ce que vous feriez face à l'excès de zèle français au niveau environnemental.
Ah, donc j'étais il y a quelques jours à Brest pour le congrès de la FNSEA et j'ai présenté mes propositions aux agriculteurs. La première chose que je veux faire, c'est de supprimer toutes les normes françaises qui ont été rajoutées aux normes européennes. On est dans un marché agricole commun, on doit avoir les mêmes règles entre l'Allemagne, la France, les Pays-Bas. Or, la France surtranspose toutes les normes européennes et crée des distorsions de concurrence avec les autres pays européens. Ensuite, je propose que les agriculteurs fassent l'objet de baisses de charges comme les autres entrepreneurs, de manière à améliorer la compétitivité de l'agriculture française. Je propose que les agriculteurs puissent disposer librement d'un compte épargne aléas climatiques et économiques sur lequel ils peuvent placer tout l'argent qu'ils veulent sans contraintes fiscales lorsque les années sont bonnes pour pouvoir les utiliser lorsque les années sont mauvaises. Et enfin, je veux qu'on organise, et je le proposerai sitôt après mon élection, alors on va appeler ça un Varenne, parce que les agriculteurs aiment pas trop le mot Grenelle, donc on va appeler ça un Varenne.
C'est une rue parallèle.
Un Varenne de l'agriculture et de la grande distribution. Moi, l'objectif que je poursuis et que je veux poursuivre, c'est que on trouve un accord avec la grande distribution pour que on mette dans le commerce des produits qui n'ont pas une empreinte carbone trop élevée, c'est-à-dire qu'on limite la quantité de kilomètres que les produits alimentaires font avant d'être mis en vente et qui est au fond une forme d'incitation à commercialiser des produits qui sont produits dans les régions où ils sont vendus. Et je pense que là, on peut faire d'énormes progrès en termes de protection de l'environnement sur cette question.
Gilbert, depuis Toulouse. Bonjour Gilbert.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Voilà. Bonjour Monsieur Fillon.
Bonjour.
Emmanuel Macron propose la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des habitants. Qu'en pensez-vous? Je crains que la taxe foncière sera doublé, triplé ou quadruplé. Et également, quid de l'imposition sur les loyers fictifs? Je trouve que les journalistes ne parlent jamais de cette proposition d'Emmanuel Macron, alors que nous sommes envahis de ces questions par les réseaux sociaux. Monsieur Fillon, s'il vous plaît, qu'en pensez-vous? Je suis, moi, propriétaire.
Bon, d'abord, la suppression de la taxe d'habitation est une proposition qui ne tient pas. Elle consiste à transférer à l'État plus de 10 milliards de dépenses qu'Emmanuel Macron est incapable de justifier, c'est-à-dire qu'il n'explique pas comment il va financer ces 10 milliards transférés à l'État. Et deuxièmement, le fait de faire porter sur un tout petit nombre de Français ce qui restera de la taxe d'habitation, c'est encore accroître les inégalités devant l'impôt qui sont considérables. Et quant aux collectivités, il y a tout lieu de penser qu'elles chercheront, comme vous venez de le dire, à se rattraper sur les autres impôts. Donc on peut imaginer une réforme globale de la fiscalité locale, mais pas celle qui consiste...
Et de la taxe d'habitation. Dont on parle depuis 30 ans sans la faire, parce que c'est très compliqué.
Parce qu'il y a toujours plus de perdants en général que de gagnants. Mais en tout cas, la proposition d'Emmanuel Macron, elle tient pas. Elle tient pas, sauf à mettre complètement les collectivités locales par terre. Quant à au deuxième sujet, Emmanuel Macron a expliqué plusieurs fois qu'il n'avait jamais proposé la taxation fictive. J'ai pas retenu exactement la question. Mais ça illustre bien son programme.
Ça n'illustre pas, il l'a pas proposé.
Non, si, ça illustre son programme. C'est-à-dire qu'il évoque des sujets, puis après il dit le contraire. Par exemple, il a expliqué qu'il allait supprimer le RSI et qu'il allait transférer la protection sociale des indépendants au régime général de la sécurité sociale. Puis quand il s'est rendu compte que ça représentait une augmentation de 30% des cotisations des indépendants, il a expliqué que il y aurait pas d'augmentation de cotisations. Donc c'est tous les jours comme ça. Il est un jour pour les 35 heures, un jour contre, un jour pour la suppression de l'ISF, un jour contre. C'est un programme qui est juste destiné à gagner une élection. C'est pas un programme qui est destiné à transformer le pays.
Emmanuel Macron, puisque vous y revenez, vous le traitez depuis des semaines d'héritier de François Hollande, et il vous a répondu en substance, enfin c'était pas exactement la phrase, mais ça voulait dire ça, qu'il valait mieux être l'héritier de François Hollande que l'héritier de Nicolas Sarkozy.
Eh ben, je conteste cette idée, parce que je pense que Nicolas Sarkozy a été un bien meilleur président de la République que François Hollande. Voilà.
François meilleur Hollande... ou moins mauvais?
Ça, c'est vous que je vous laisse à votre
jugement. Non, c'est votre une question.
Mais François Hollande est dans une... Enfin, un président de la République qui n'est même pas en mesure de se représenter. C'est un président de la République qui a complètement échoué. Et moi, j'assume, c'est la grande différence d'ailleurs avec Emmanuel Macron, c'est que moi, j'assume le bilan du quinquennat pendant lequel j'ai été aux affaires, alors que Monsieur Macron a été le conseiller de Monsieur Hollande, le secrétaire général adjoint, le ministre de Monsieur Hollande, et il n'assume absolument rien du bilan. Je trouve que c'est une attitude qui n'est pas responsable.
Vous pourriez assumer l'étiquette d'héritier de Nicolas Sarkozy ?
Non, mais j'assume le bilan. Je suis l'héritier de personne, mais j'assume le bilan du quinquennat, bien sûr. Et il faut toujours assumer les responsabilités qu'on a eues et les décisions qu'on a prises. Et quand on les assume pas, c'est en général qu'on manque de courage.
Alan nous appelle de la région nantaise. Bonjour.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour, merci pour la qualité de vos émissions, bien sûr. Bonjour, monsieur Fillon.
Bonjour.
Je voulais aborder avec vous le thème du second tour. Imaginons que vous ne soyez pas présent. La question a été posée, je crois, à monsieur Bertrand il y a peu. Il n'a pas voulu répondre en disant qu'il ne se mettait pas dans cette idée. Voilà, nous sommes nombreux il y a 15 ans à avoir fait le Front Républicain. Moi, je veux vraiment une réponse de votre part. Est-ce que si vous n'êtes pas présent au second tour, que madame Le Pen y est, est-ce que vous appliquerez le Front Républicain? J'ai besoin de savoir si vous y êtes, si je vote ou pas pour quelqu'un qui, lui, de son côté, ne s'alignerait pas sur le Front Républicain.
Ma réponse sera double. J'ai toujours combattu le Front National, toujours. Je ne vais pas changer de position aujourd'hui. Mais je ne réponds jamais à cette question pour la bonne raison que je serai au second tour de l'élection présidentielle. Vous ne demandez pas à un sportif d'imaginer son élimination avant même d'avoir joué le match. Donc cette question est une question...
Il y a peut-être même des gens qui voudraient voter pour vous si vous répondez à cette question. C'est-à-dire que c'est une question de valeur. Et ce monsieur-là,
c'est totalement hypocrite.
On a besoin de connaître vos valeurs.
Hypocrite pour une raison simple, c'est que ça fait 36 ans que je fais de la politique et ça fait 36 ans que je combats le Front National.
Et alors ce qui est hypocrite, c'est peut-être de ne pas être clair et de ne pas dire effectivement, non. si je ne suis pas au second tour, ce qui reste possible, eh bien je combattrai le Front National.
Je serai au second tour, monsieur Legrand.
Christian nous appelle de Limoges et il veut parler du premier tour, je crois. Bonjour Christian.
Oui, bonjour. J'avais envisagé une question, mais la teneur des débats me fait un tout petit peu évoluer.
Alors, dites-moi.
Donc, très rapidement, la question que je voulais poser à M. Fillon était la suivante, mais c'est une question une réflexion plus collective. Comment peut-on faire confiance à un candidat qui, aujourd'hui, dont la probité est quand même mise en cause? Premier point. Deuxième point, avec un programme très clivant. Et troisième point, M. Fillon, rappelez-moi, Vous n'avez pas été Premier ministre pendant 5 ans de M. Sarkozy ?
On vient d'en parler, Christian. Hein.
Oui, c'est ce que je viens de dire. J'assumais complètement le bilan de ce quinquennat.
On a l'impression que M. Fillon est le perdreau de l'année dans cette affaire.
Bah, il vous écoute et il vous répond éventuellement.
J'assume totalement le bilan du quinquennat. J'aimerais d'ailleurs que l'élection présidentielle se focalise un peu plus sur le bilan du quinquennat actuel. C'est quand même tout à fait extraordinaire. On a l'impression qu'il n'y a pas de bilan, qu'il n'y a pas que François Hollande n'existe plus. Et dans les débats qui ont eu lieu, on débat plus de mon programme. Ce qui est d'ailleurs plutôt intéressant. L'avenir. On débat plus de mon programme que du bilan du quinquennat actuel. Donc, moi, j'assume le bilan du quinquennat précédent, mais en même temps, je porte sur ce bilan un regard critique, comme je porte un regard critique sur ma propre action, parce que c'est le propre d'un homme politique d'analyser ses réussites et ses échecs et d'en tirer des conséquences pour proposer une nouvelle politique aux Français.
Qui est en ligne encore au standard ? Philippe. Bonjour Philippe. Philippe qui nous appelle de Paris. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour à tous. Alors voilà ma question. Le groupuscule Sens commun, issu de la manif pour tous, décrit comme proche de l'extrême droite et catholique traditionnaliste, vous soutient ouvertement. Qu'en pensez-vous ?
Pourquoi est-ce qu'il faut insulter les Français comme ça ? Il y a des Français qui sont catholiques, il y a des Français qui sont musulmans, il y a des Français qui sont juifs, il y a des Français qui sont athées, il y a des Français qui sont de gauche, il y a des Français qui sont de droite. Ils ont tous le droit de s'exprimer. Et en ce qui me concerne, je suis soutenu par des hommes et des femmes qui vont de Sens commun aux proches d'Alain Juppé.
Oui, voilà. Mais les proches d'Alain Juppé ont disparu.
Non, pas du tout. Ils sont présents, ils sont dans les meetings. Ça, c'est ce que vous aimez écrire.
On a fait la liste des défections
oui,
qui vous.
Oui, mais moi je les vois revenir. Voilà, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échéance, je les vois revenir.
Qui est revenu voilà.
Mais vous, hier soir, il y avait au meeting que j'ai organisé à Provins la totalité des élus de Seine-et-Marne, y compris ceux qui s'étaient éloignés, comme Franck Riester ou comme Yves Jégot. Voilà. Donc tout le monde revient. Parce qu'on s'approche de l'échéance et que la question qui est posée, c'est est-ce qu'on veut une alternance ou est-ce qu'on veut pas d'alternance, voilà. Et je trouve tout à fait insupportable qu'on stigmatise des hommes et des femmes en fonction de leurs convictions, qui sont des convictions qui s'inscrivent dans le débat républicain. La question qui est posée, c'est quand on s'inscrit pas dans le débat républicain.
À l'approche du premier tour, donc, c'est une information. Ceux qui sont partis, au plus fort de la tempête, sont en train de revenir. C'est cela, François Fillon.
Absolument.
Bonjour Augustin Trapenard.
Salut Patrick.
Vous avez une question pour notre
oui,
invité.
Oui, bonjour François Fillon. Une question sur la tenue, au sens propre comme au sens figuré. On en a parlé dans la revue de presse de ce candidat qui, lors du débat à 11, n'avait pas de costume. Ce qu'on lui a reproché à Philippe Poutou, parfois violemment, ce qu'il a anticipé lui-même dans une remarque aux deux journalistes qui menaient le débat. Je me suis demandé, François Fillon, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, manquer de tenue dans le débat politique ? Est-ce que ça a un sens ?
Je croyais que vous vouliez me poser une question sur les ventes de mon livre, parce que j'aurais été heureux de vous dire que j'en avais vendu 150 000 pour le premier et 90 000 pour le deuxième.
On pourrait en parler aussi de Maëlle Renoir.
Je ne sais pas de quoi vous parlez.
Ah bon ?
Et donc la question...
Maëlle Renoir étant, on l'a dit, la personne qui vous a aidé à écrire ce livre...
Non, absolument pas.
Ah bon ?
Non,
d'accord. C'est une fausse information.
Déjà, vous vous êtes trompé une première fois sur les ventes, maintenant vous vous trompez sur l'écriture des livres.
Mais moi je l'ai lu, votre livre, vous savez, on en a reparlé.
Non, mais c'est juste une affaire entre nous, donc je réponds à votre question. Je n'ai fait aucune remarque sur la tenue de M. Poutou, aucune, absolument aucune. Je considère que les gens sont libres de s'habiller comme ils veulent. Et loin de moi l'idée de lui faire des reproches. J'ai d'autres reproches à lui faire sur sa ligne politique, sur le fait qu'au fond, il veut démolir les institutions et notre système démocratique, mais pas sur sa tenue.
Très bien.
Boomerang dans 10 minutes, Augustin.
Avec
peut-être
Stéphane
peut-être
Guillon.
Même que j'aimerais pouvoir qu'on s'habille de façon plus décontractée.
Apparaître au prochain débat. C'est votre rêve, c'est de quitter le.
En manche courte et sans cravate.
Le complet et la cravate.
Bah, je remarque que je suis le seul à être obligé de mettre une cravate autour de cette
table.
Vous
n'êtes pas obligé,
On a eu des candidats sans cravate.
Je reçois Stéphane Guillon qui poursuit l'aventure de son spectacle certifié conforme depuis plus d'un an et demi. Spectacle qui remanie pour trois dernière date, François Fillon, exceptionnel à la veille des résultats du deuxième tour des présidentielles. Alors vous le connaissez, c'est un regard acerbe, une verve sans pareil, un sens aigu de l'irrévérence. J'ai l'impression qu'on va se marrer, Stéphane Guillon, dans Boomerang, évidemment.